And then I see him without a shirt one day. And this guy is strong. And he's not fat. That's all power. That's all muscle. I want to tell you that. And I said, Ron, you're one of the few I say it to. Don't walk around with a jacket all the time. Take it off. People are going to see the real Ron. But he's a great guy. He's a tough guy. He's a brilliant guy.
C'est 16h51. Écoutez, je vais essayer de traduire ça. C'est Donald Trump qui parle du chest, de la poitrine d'un homme bien musclé. Je sais pas, il en parle avec beaucoup d'admiration. De qui parle-t-il?
L'homme en question, Pat, c'est le gouverneur de la Floride. Il est en train de parler de Ron DeSantis, est en rallye électorale hier en Floride et prend une minute de son discours pour vanter la poitrine du gouverneur de la Floride. C'est assez inusité, on s'entend. Surtout, évidemment, dans le contexte où, depuis ce matin, on ne parle à peu près que d'une chose sur les réseaux sociaux, cette fameuse photo photoshopée de Donald Trump sur le corps, ou plutôt la tête de Donald Trump avec le corps de Rocky Balboa.
Oui, et écoute, je pense pas que M. Trump ressemble à ça.
Non.
Devant son miroir en sortant de la douche. Pas ça que Mélania voit.
Non, je pense pas. Si Mélania voit encore quoi que ce soit à ce stade-ci,
là,
on n'ira pas plus loin que ça.
Ne sois pas une langue de vipère. OK, visite de haut niveau cet après-midi à Washington, la numéro 2 du gouvernement Trudeau.
Oui, Chrystia Freeland qui est à Washington cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'on parle encore une fois du processus de ratification de l'ALENA 2.0. Ce qui est quand même assez remarquable, on l'oublie, là, mais il y a un an, presque jour pour jour, c'était le 30 novembre 2018, on signait le nouvel accord, l'accord qui avait été renégocié. On se disait, ben écoutez, c'est pratiquement une lettre à la poste, ça va être fait, ça va être ratifié. Le Mexique avait ratifié, le Canada était en voie de ratifier et il y a quelque chose d'assez dramatique qui s'est produit. C'est-à-dire que les démocrates ont pris contrôle de la Chambre des représentants et c'est venu complètement court-circuiter le processus de ratification aux États-Unis. Et les démocrates demandaient depuis des mois qu'on rouvre l'enquête. Donc, l'accord, pardon. Donc, essentiellement, qu'on renégocie la renégociation.
T'es habitué à dire rouvrir l'enquête sur la Russie, rouvrir l'enquête sur l'impeachment.
Exact. Avec Donald Trump, on est tout le temps en train de parler de rouverture d'enquête. Mais là, on parle de rouverture d'un accord qui avait été signé. Et on se disait, c'est pratiquement un baiser de la mort. Essayer de rouvrir cette... j'allais encore dire enquête, cet accord-là qui avait été si difficilement renégocié, eh bien, on l'a fait. Et aujourd'hui, donc, les plus hauts placés en ce qui a trait à la renégociation, à la fois du côté mexicain, du côté américain et du côté canadien, se réunissent à Washington. Et de ce qu'on en comprend, on serait très, très près d'avoir un accord qui à la fois satisfait les trois gouvernements, canadiens, mexicains et américains, et qui satisfait également les démocrates, la Chambre des représentants, qui, encore une fois, bloque le processus depuis des mois. Et ça serait assez pour que, formellement, on tienne un vote à la Chambre. On présumerait que ça passerait. Et donc, écoutez, c'est impossible de savoir exactement combien de temps ça prendra encore, mais on serait non seulement sur la bonne voie, mais proche d'aboutir, ce qui est quand même assez loin de ce qu'on croyait il y a à peine quelques semaines. Il y a vraiment du travail très sérieux qui s'est fait, surtout du côté américain, et là, ça semble débloqué.
C'est Mme Freeland qui est là.
Exactement.
Parce qu'évidemment, même si elle est devenue ministre des Affaires intergouvernementales, elle n'est plus aux Affaires extérieures, c'est elle qui a négocié tout ça.
Exactement. Donc, c'est encore la personne de confiance du premier ministre et c'est aussi la vice-première ministre du Canada. Il faut le mentionner, elle a aussi ce titre-là. Et évidemment, elle avait un rôle de premier plan depuis le début. Donc, on lui a confié le ballon jusqu'à la fin du match.
Et il y a beaucoup de réactions très, très vives là, depuis que Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York, a annoncé ses ambitions présidentielles.
Réactions et surtout questions. Parce qu'il y a certaines choses qu'on sait de la façon traditionnelle de mener des campagnes pour des élections primaires aux États-Unis. C'est-à-dire que vous devez amasser, collecter beaucoup de fonds, évidemment. Vous devez vous qualifier pour les débats. Et vous devez concentrer vos efforts de campagne dans les premiers États qui vont voter. L'Iowa, New Hampshire, la Caroline du Sud, le Nevada, etc. Or, Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York, qui est arrivé très, très tard, on le sait, dans cette course-là, lui a dit clairement, il n'y a rien de ça que je vais faire. Je vais le faire à ma façon. Donc, je saute les premiers États. Je ne ferai même pas campagne, je n'essaierai même pas de remporter le moindre premier État à voter, que ce soit l'Iowa, New Hampshire, la Caroline du Sud, peu importe. Je vais me concentrer sur les plus gros États qui vont voter plus tard. Et il n'essaie même pas de se qualifier pour les débats. Pourquoi? Parce que pour ce faire, on a besoin d'au moins, dans le cas, par exemple, du prochain débat qui s'en vient au mois de décembre, de 200 000 donateurs distincts qui ont donné de l'argent à votre campagne. Bloomberg lui dit... je vais financer moi-même ma propre campagne, je vais l'autofinancer, je vaux 50 milliards de dollars, donc j'accepte même pas de dons politiques. Donc, forcément,
ni,
il peut pas se qualifier.
Ni des grandes corporations, ni des riches, personne. Ni des gens qui sont pas riches.
Personne. Et en même temps, on parle d'argent. Qu'est-ce que le type est en train de faire? Il est en train de dépenser 40 millions de dollars en publicité électorale. Juste pour donner un petit ordre d'idée, là. 40 millions, ça, c'est plus que tous les autres candidats démocrates, et on sait qu'il y en a beaucoup et pas à peu près cette année, combinés depuis le début de la course. Lui, il va dépenser 40 millions en une semaine en publicité électorale. Donc, d'un côté, il peut dire qu'il n'y a personne qui peut m'acheter. Mais de l'autre côté, il y en a qui vont se demander, est-ce qu'il peut acheter la présidence des États-Unis? Là?
C'est une excellente question. Parce que ce qu'on reproche à Trump, on peut le reprocher aussi à Michael Bloomberg. C'est-à-dire, la prochaine étape, c'est de devenir président des États-Unis. Parce que quand tu es riche, c'est quoi le prochain défi aux États-Unis? C'en est un pour beaucoup de gens qui ont été, qui sont essayés.
Et voilà.
OK, parfait, Raph. Merci. On te retrouve demain au retour de la pause. Il y a Luc Ferrandez et Pierre-Yves McSween qui sont là, ainsi que les accros de la télé. Et on va faire une petite mise à jour, si vous vous souvenez, la semaine passée. Karine Mainville, la mère de Jacob, là, elle va être aux 24 heures de Tremblant. Elle va venir faire une petite mise à jour.